des interviews, les questions semblent aussi que leur
dans la mesure où, comme le précisait Marie, nous avons observé un réel changement dans le comportement.
Les interviews réalisées par les classes autour de 6 spectacles. Bonne écoute.
Les petits correspondants du théâtre.
Chewing-gum mâché, caoutchouc craché sur le ciel noir de nos trottoirs, comme une pluie d'étoiles blanches plantée dans la nuit du goudron, vous resterez, nous passerons. À quoi donc serviez-vous, citron mentholé? Vous perdez votre goût, faut vous en aller. Vous voilà sur la touche, et comme un mégot, vous quittez notre bouche pour le caniveau. Ces soucis qu'on rumine, ces désirs fanés, ce peu de nous s'imprime au fil des années. Au hasard de nos rues, ces messages ultimes, peines d'amour perdues.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Et aujourd'hui, je vous propose, en attendant l'émission inédite de la semaine prochaine, de réécouter des petits correspondants du théâtre de la saison 2009-2010. Alors, j'avais le choix, je pouvais vous passer ceux de l'an dernier ou d'il y a 2 ans, mais je me suis dit que ce serait intéressant d'écouter le travail fait il y a longtemps. Donc à l'époque, c'était les CM1, C et B. De... Alors, c'était quelle école ? Alors ça c'est un peu étrange, mais il précise pas. Ah voilà, école Jacques Solomon, excusez-moi. Et ils ont vu plusieurs spectacles durant toute l'année. Un si joli jardin, Umkolo et tout, Les Orphelines, Clap, Matati Frise et Mon Géant. Et à chaque fois, donc soit il y a une interview, soit il y a une critique du spectacle. Bonne écoute.
Les petits correspondants du théâtre.
Bonjour, je suis Marie Bousquet, je m'occupe des relations avec les publics scolaires au Théâtre Dunois.
Bonjour, et moi je suis Annick Bayard et je m'occupe des relations publiques et de l'action culturelle au Théâtre d'Ivry-Antoine Vitez. Pour la saison 2009-2010, le projet des petits correspondants du théâtre a été conduit avec 2 classes de CM1 de l'école Jacques Solomon. Il reposait sur un parcours de spectateurs pour les élèves. Donc cela signifie tout d'abord une fréquentation importante de lieux de spectacle. Là en l'occurrence donc le Théâtre Dunois, Théâtre Jeune Public du 13e arrondissement et le Théâtre d'Ivry-Antoine Vitez. La collaboration entre ces 2 équipements nous a permis de proposer aux élèves une programmation plus variée, dans la mesure où à Ivry, nous ne programmons pas de forme théâtrale. Nous les avons amenés à découvrir au Théâtre d'Ivry de la chanson, de la musique, des chants du monde, de la danse hip-hop et également de la danse avec des formes marionnettiques.
Au Théâtre Dunois, on propose des spectacles pluridisciplinaires. Les spectacles qu'on a retenus avec Annick pour le parcours de spectateurs étaient des spectacles plus axés sur le théâtre et qui permettaient de découvrir plusieurs formes et plusieurs genres de théâtre. Donc théâtre et marionnettes, théâtre et images numériques et même théâtre de boulevard qui est un genre qu'on ne propose pas trop au jeune public habituellement.
Dans le cadre du projet, nous avons imaginé également avec Marie de permettre aux élèves de rencontrer des artistes, des compagnies Pour cela, il devait réaliser en classe un travail de petit reporter en trois parties, avec un travail sur une fiche spectacle qui permet plus précisément de décrire ce qu'ils ont vu comme forme de spectacle, comment se déroulait le spectacle, une partie interview proprement dite, donc des artistes, et une partie critique où ils sont amenés à défendre leur point de vue. Cette phase donc d'interview permettait de formuler aux élèves un avis de spectateur, ce qui est très important pour nous, puisqu'il s'agit de défendre un point de vue, et cela face à un groupe, d'être en mesure de constituer un argumentaire et de pouvoir soutenir cet argument.
Donc la possibilité pour les élèves de rencontrer les compagnies avant le spectacle, de pouvoir faire ces interviews à l'issue des représentations, il me semble que ça... On a pu observer une évolution dans leur comportement de spectateur, à la fois dans la salle de spectacle, mais aussi au cours des interviews, les questions étaient plus pertinentes au niveau du fond et de la forme. On les a vus aussi faire des comparaisons entre les différents spectacles, et il me semble aussi que leur goût, ce qu'ils aimaient pas, ce qui les dérangeait dans un spectacle, était plus affirmé d'interview en interview.
Au final, notre objectif me semble atteint sur la définition du projet, dans la mesure où, comme le précisait Marie, nous avons observé un réel changement dans le comportement des enfants et dans l'affirmation de leurs ressentis.
Et à présent, nous vous proposons d'écouter les interviews réalisées par les classes autour de 6 spectacles. Bonne écoute.
Les petits correspondants du théâtre. Les petits correspondants du théâtre.
Hey Younes, t'as vu le nouveau jeu qui vient de sortir?
Oui, il est trop classe.
Fanta, tu t'es inscrit au cours de hip-hop?
Ouais, c'est trop fashion.
Émilie, Mélodie, ça vous dirait d'aller au parc après l'école?
Ben oui, pourquoi pas?
Je ne sais pas.
Hey Rémi, est-ce que tu
vas? T'as vu, je suis trop belle en vrai, hein?
Ouais.
Ça vous dirait d'aller dans un beau jardin par magie?
Par magie?
N'importe quoi.
La magie, ça n'existe pas.
Ah oui, ça n'existe pas. Oiseaux et fleurs de mon jardin, feuillis, feuillus, fauvettes, transporte-nous et montrez-nous vignes, vergers et verdure.
Waouh !
Mais c'est magnifique.
Mais on est où ?
Mais c'est impossible.
Je vous ai transporté dans le jardin de Jacques Maillou.
Bienvenue dans notre jardin de chansons.
Bonjour et merci de nous accueillir dans votre jardin.
Bonjour tout le monde et vous êtes les bienvenus.
C'est un si beau jardin.
Tiens, mais c'est le titre de votre spectacle.
Ah oui, je l'ai vu.
Moi aussi, vous chantiez accompagné de deux musiciens,
Stéphane Méjean et Roger Lassalle.
Il avait plein d'instruments différents, des saxophones, un accordéon, un violon,
une cornemuse et aussi une sansa.
Un vrai spectacle musical, on dirait. Et ça parle de quoi?
Jacques Maillou chante des histoires du jardin et de la nature.
En plus, il y a de belles images projetées pendant le spectacle. La terre, des fleurs.
Oui, c'est du collage. C'est Cathy Olive qui l'a fait.
En tout cas, pendant une heure, tu en prends plein les yeux et les oreilles.
Viens, Younes, on va faire un petit tour dans le jardin de Jacques Maillou. Tu auras une petite idée de son spectacle.
À tout à l'heure, Jacques Maillou.
À tout à l'heure.
Les petits correspondants du théâtre.
Ah, on est bien là. Jacques Maillou, dites-moi, pourquoi avoir décidé de créer un spectacle de chansons sur le thème du jardin?
D'abord parce que j'ai la chance d'avoir autour de ma maison un très beau jardin, depuis 10 ans que j'habite cette maison. Et puis donc, avant même de penser à faire un spectacle, j'ai eu des rencontres, des histoires avec les fauvettes, les merles, avec les arbres. Et j'ai écrit pour moi, comme ça, des poèmes ou des chansons. Et petit à petit, j'ai eu 2, 3, 4, 5, 6, 10 chansons qui parlaient de jardin et qui parlaient de mon jardin. Alors, je me suis dit, tiens, il y a peut-être de quoi faire quelque chose. Ça, c'est la première raison. Puis la deuxième, je m'aperçois que parler du jardin à notre époque, en ce moment, c'est très important. Parce qu'il y a plus en plus de pollution. Il y a plus en plus de gens qui sont énervés, des gens qui sont malades. Il y a plus en plus de gens qui passent du temps à faire des jeux, à jouer de l'ordinateur. Et ils savent plus ce que c'est qu'un oiseau, que les plantes. Et ça, je trouve grave. Je trouve que c'est grave. Alors je me suis dit, ça serait bien qu'on puisse parler de tout ça.
Toutes les chansons, paroles et musiques sont-elles de vous ?
Les trois quarts, à peu près les trois quarts des chansons que j'ai écrites ou composées. Et puis les autres, c'est ce qu'on appelle des reprises. J'ai repris des chansons, mais ça a été difficile de choisir parce que j'en ai écrit le double des chansons. Puis des chansons sur le thème du jardin, il y en a des biens, il y en a beaucoup de biens, et j'avais envie d'en chanter encore plein d'autres. Hein. Donc là, dans ce que vous avez vu, il y avait 16 chansons, mais j'en avais au moins 35 au départ.
Les histoires racontées dans les chansons sont-elles vraies ou issues de votre imagination ?
Ah, au départ, tout est vrai, tout est vrai. Puisque je suis parti de ce qui m'est arrivé avec le jardin. Hein. Quand je chante la chanson sur ton arbre, ben, y a un arbre où c'est mon arbre plus que les autres. Puis de temps en temps, je vais lui causer, je vais écouter ce qu'il me raconte. Hein. Tout ça, c'est vrai. Les oiseaux qui viennent se casser le cou contre les vitres, c'est vrai. Même le jour où je suis parti à Ivry, il y a une merlette encore qui s'est cassée le cou. Le jour même, j'étais en train de charger ma voiture. Hein. Tout ça, c'est vrai. Quand arrivent les parfums du mois de mai et je ne sais plus où donner du nez tellement ça sent bon, et tout ça c'est vrai. Hein. Il n'y a qu'une chose qui n'est pas vraie, c'est la chanson des légumes où je disais que ma copine elle faisait pousser des légumes. Hein. Non, c'est dans la chanson, je dis mamie, mon amie. Hein. Mais c'était pour vous dire que dans le temps on disait mamie pour dire mon amie. Mais tout le reste des chansons, c'est des choses qui me sont arrivées. Le voisin qui coupe tout et tout ça, c'est vrai.
Nous sommes venus vous voir le premier jour de la présentation de ce spectacle au public. Aviez-vous particulièrement le trac ?
Est-ce que j'avais le trac pour la première ? Eh oui, j'ai toujours un peu le trac, parce que là, on l'avait bien répété dans un autre théâtre, mais là, vous étiez les tout premiers spectateurs. Hein. Depuis, on l'a rejoué, ça va mieux, j'ai moins le trac, puis il y a des choses ce qui roule mieux, et puis voilà. Mais les premières, oui, j'avais le trac. Mais c'est bien, un petit peu de trac, on dit que ça aide aussi à ce que le spectacle soit plus vrai.
Ainsi, pour le jardin, n'a-t-il été créé que pour les enfants ? Avez-vous pensé aux adultes en le préparant ?
En le préparant, je pense à personne. Je pense à la chanson, et c'est après, quand la chanson est écrite, que je me dis, tiens, qui est-ce qui peut l'entendre, cette chanson ? Est-ce que les enfants ils vont comprendre ce que je raconte ? Est-ce que les adultes, ça va les intéresser ? Parce que moi, je ne chante pas uniquement pour les enfants, ni pour les adultes. Je chante pour tout le monde. Et donc, du coup, quand j'écris les chansons, je ne sais pas à qui elles s'adressent. La chanson, elle vient, puis après, je vois où est-ce qu'elle a sa place.
Est-ce que, de toute façon, parler d'un spectacle destiné uniquement aux enfants, ça a du sens pour vous ?
Moi, j'aime bien, à des moments, m'adresser qu'à des enfants. Parce que j'ai envie de vous faire rentrer dans mon jardin, dans ma manière de travailler. Mais en général, non, moi j'aime autant chanter pour des enfants, pour des adultes, pour des tout petits bébés. J'ai chanté aussi à l'hôpital ou pour les bébés nageurs dans l'eau, ou bien pour des mamans en prison, ou pour des personnes âgées, pour tout le monde. Mais surtout, j'aime bien quand c'est toute la famille en même temps. Quand c'est pour tous les publics, le samedi ou le mercredi, qu'il y a le papa, la maman, les petits frères, des fois le grand-père. Ah, ça, j'aime bien. J'aime bien quand il y a toute la famille.
Ah, j'irais bien me balader aussi dans votre jardin.
Bonne idée, on vient avec toi. On essaie de retrouver les autres.
À plus tard, Jacques Mayou.
Eh bien, vous êtes les bienvenus dans mon jardin. Ça s'appelle La Note Bleue. C'est une maison atelier d'artistes en dessous de Lyon, dans la vallée du Rhône, si vous passez dans la vallée du Rhône en descendant vers le sud. Et puis on mangera un petit peu de raisin ensemble. On ira voir les arbres que vous connaissez dans les chansons avec plaisir.
Nous avons vu votre spectacle et on a eu envie d'en parler avec vous.
Bonne idée.
Moi, j'ai aimé votre spectacle car il parlait de la nature et c'est un thème qui me touche.
Oui, c'est vrai. Avec vos chansons, j'ai appris des choses sur la nature.
En plus, c'est un spectacle vivant qui donne envie de bouger, de danser.
Moi, j'ai pas trouvé ça vivant. Je me suis ennuyée, c'était trop long.
C'est vrai qu'il y avait des chansons énergiques, mais d'autres qui étaient plus tristes, plus lentes, et du coup, ça cassait le rythme du spectacle.
Ce qui est plus difficile, c'est d'alterner les chansons gaies, les chansons tristes, hein, les chansons où ça bouge beaucoup. Mais que moi, je tenais à vous faire écouter aussi des chansons qui étaient lentes ou qui étaient parfois un peu tristes, parce que le jardin, c'est comme la vie. Le jardin, c'est pas tout le temps des fleurs, hein, c'est pas que des choses qui sont comme on veut. Il y a des moments où ça alterne l'été, l'hiver, ou des fleurs, pas de fleurs, la vie, la mort, tout ça. Donc j'ai essayé que ça soit un petit peu à l'image du jardin.
Les musiques étaient vraiment belles et les sons se mélangeaient bien.
C'est vrai, et puis j'ai découvert plein de nouveaux instruments.
La cornemuse, par exemple.
Ou la sansa.
Ah, la sansa, je l'ai apportée. C'est vrai que la cornemuse, c'est très rare, mais les sansa, c'est rare aussi.
Moi, j'ai bien aimé le décor, les images étaient très colorées et allaient bien avec le thème.
Ah oui, tu trouves ? Moi, j'ai trouvé que les images ne ressemblaient pas assez à la nature.
Ah, mais tu sais pourquoi on voulait pas que les images ressemblent trop à la nature ? C'est qu'on voulait pas illustrer, c'est pas une illustration, les images. C'est quelque chose pour faire un espace. Et puis, les tableaux que font Cathy, ça représente pas quelque chose. Donc c'était volontaire.
Moi, j'ai trouvé que le décor n'était pas assez présent sur scène. J'aurais préféré voir des arbres, des fleurs, comme un vrai jardin.
Ah oui, mais ça, c'est très compliqué de faire un vrai jardin sur scène. Et puis, c'est bien de que chacun puisse imaginer aussi.
Je crois qu'il est temps de rentrer à l'école.
Merci Jacques Mayou et à bientôt.
Merci à vous et merci d'avoir pris tout ce temps pour préparer ces questions, préparer cette émission.
Et voilà, c'était les petits correspondants du théâtre. Nous sommes les CM1B de l'école Jacques Solomon.
À bientôt. Les petits correspondants du théâtre. Les petits correspondants du théâtre.
Bonjour, nous sommes les CM1C de l'école Jacques Solomon.
Et alors, de quel spectacle va-t-on parler aujourd'hui ?
Un coulou et tout.
Oh, quel droit de nous, un coulou et tout.
Oui, c'est un mot qui vient d'Afrique du Sud.
C'est aussi le titre du spectacle de Dizoupladis avec aussi Lisa Cadbero et Ahmed Dupas.
Alexia, n'oublie pas qu'Anigelin le mettait en scène.
Et Salim, alors de quoi il parle ce spectacle ?
En Koulou et tout, c'est un spectacle qui se passe dans un aéroport et il y a trois musiciens qui se rencontrent, Armel, Lisa et Dizou.
Oui, mais ils ne parlent pas la même langue.
Mais alors, comment ils vont faire pour parler ensemble ?
Ça, pour le savoir, il faudra aller le voir.
Comme nous avons la chance d'avoir avec nous les musiciens, acteurs et les metteurs en scène, nous allons maintenant pouvoir leur poser quelques questions.
Bonjour les enfants.
Moi je suis Ken, le metteur en scène.
Je suis Lisa, saxophoniste du spectacle.
Moi je suis Armel, le pianiste.
Dizouplakis, la chante, la African traditional music.
Dizou, le chanteur donc.
D'où vous est venue l'idée de créer un spectacle de musique dans lequel instruments traditionnels sud-africains et instruments classiques se rencontrent ?
C'est d'abord un souhait du théâtre d'Ivry de faire venir Dizou en France pour lui proposer une création d'un spectacle ici. Et quand Dizou est arrivé en France, il a dit « D'accord, moi je veux bien faire cette création, mais je veux pas venir jouer ma musique seulement avec mes instruments et ma façon de faire. Je veux également que ma musique soit jouée par des artistes français, occidentaux, qui jouent de leurs instruments et de leur façon à eux de faire de la musique. »
Est-ce que cela a été simple pour vous trois de travailler et de composer ensemble ?
Yes and no. The only thing I can say, when you meet a professional musician who knows what to do with their instrument, it makes life and things very easy. So it was not that difficult because these are the professional musicians. They know exactly what to do.
Oui et non. Quand on a la chance de rencontrer des musiciens professionnels, ça rend les choses tellement plus simples. Que là, les choses n'étaient donc pas si compliquées puisque ce sont deux musiciens très professionnels et très bons.
Alors moi je trouve que ça s'est bien passé et que c'était très intéressant. En fait, nous on a eu un disque de Dizou avec ses musiques. Et par exemple, il y a des chansons où on entend des voix de femmes, plusieurs voix de plusieurs femmes en fait. Donc moi, j'ai essayé en écoutant la musique de comprendre ce qu'elles disaient et de faire un petit peu la même chose. Donc on a préparé aussi à l'avance les morceaux grâce au disque, ce qui a facilité les choses. Et après, on a rajouté des nouvelles choses aussi, mais on avait déjà travaillé un petit peu à l'avance.
Voilà, et en plus, comme vous l'a dit Ken tout à l'heure, le principe de la résidence, c'est-à-dire on a une longue période pour travailler cette musique. Donc en fait, on a eu 3 semaines pour tout préparer, c'est-à-dire la musique, la mise en scène, les lumières, tout ça. Donc en fait, même s'il y a beaucoup de travail, en fait, on a beaucoup de temps. Donc, au début, on dit, bah tiens, on va jouer... On commence par une chanson. Allez, hop. Donc, moi, je connaissais un petit peu comment ça fonctionnait au piano. Lisa, elle pouvait connaître déjà les paroles. Et puis, Dizou, après, il nous a donné quelques indications. Donc, finalement, ça se fait très facilement. Et après, ce qui est difficile, c'est de tout combiner, tout mettre ensemble pour que ça fasse quelque chose de cohérent. C'est-à-dire, avec un début... un milieu et une fin.
Toutes les musiques et chansons ont-elles été créées spécialement pour le spectacle?
Yes, all the songs were specially made for this show, and this show, as you can see, that is not for old people, it's for young and old.
Oui, ces chansons ont été spécialement faites là, dans ce cadre, spécialement pour les enfants, mais également pour les grands. Je rajouterais quand même que les chansons ont été composées avant, bien longtemps, par Dizou, ou sont des chansons traditionnelles également. Et là, elles ont été arrangées spécialement.
Ken, vous qui avez mis en scène le spectacle, pourquoi avoir choisi de le faire dans un aéroport?
Ça, c'est la première idée qu'on a eue. On s'est rencontrés avec Dizou dans une salle de réunion au théâtre d'Ivry. Et ils sont arrivés avec des petits bouts d'idées en disant c'est une rencontre. L'idée, c'est une rencontre entre des musiciens occidentaux et Dizou, qui vient d'Afrique du Sud. Et j'ai dit, bon, bah, si c'est une rencontre, finalement, pourquoi ne pas le faire se dérouler dans un lieu de rencontre? Alors, une salle d'attente, que ce soit d'une gare ou peut-être d'un aéroport. J'ai dit, si c'est un aéroport, c'est bien, parce que souvent, dans les aéroports, entre deux avions, on a des salles de transit où on est là avec nos valises et on attend. Et on a juste à attendre. Et quand on attend, parfois, on se tourne vers la personne à côté de nous et on se dit « Bonjour, vous êtes qui ?» et on commence à engager un dialogue. Donc l'idée est venue vraiment de là, de cette petite idée. Après, tout s'est développé autour, évidemment, on est allé un peu plus loin. Mais c'est juste la première idée qui est arrivée, qui est parfois la bonne, la première idée.
Sera-t-il présenté un jour en Afrique du Sud?
You know, that's what we've been talking about with the musician and the director of the show. We would love the show really to go to South Africa.
Ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé récemment. Dizou, les musiciens et moi, et nous, enfin nous tous, parce qu'on aimerait vraiment, vraiment beaucoup que ce spectacle puisse se jouer en Afrique du Sud.
J'ajouterais aussi que, comme vous avez pu remarquer, dans le spectacle, on parle pas beaucoup. Dizou parle beaucoup, mais nous pas beaucoup. Et c'est donc un spectacle qui pourrait se jouer là-bas. Il n'y aurait pas de problème de texte en français ou de...
Probablement, dans ce spectacle, Dizou parle en sud-africain, en Xhosa, et eux parlent français. Et ils parlent beaucoup plus Xhosa que eux parlent français. Si on allait en Afrique du Sud, ils parleraient plus français que Xhosa. Pour rétablir un équilibre dans la non-compréhension.
En parlant d'Afrique du Sud, nous avons parlé de l'apartheid avec notre maître. Est-ce qu'aujourd'hui, blanc et noir arrivent vraiment à vivre ensemble en paix?
Yes. Black and white in South Africa now, they do live together. They do marry each other. You know, that's all through Mandela. You know, the very first black president of South Africa, he managed to make things equally for everybody who live in South Africa.
Oui, maintenant les blancs et les noirs peuvent se marier, vivre ensemble grâce à l'aide de Nelson Mandela, le premier président noir sud-africain.
Nous allons vous présenter les critiques du spectacle Onkuluwatu,
qui veut dire notre musique.
J'ai adoré quand Dizou et Lisa se maquillaient.
C'était marrant parce qu'Armel poussait des gros xylophones pendant ce temps. Et il était jaloux de Dizou et Lisa. Et puis, j'étais mort de rire quand Armel a soufflé dans la corne de gazelle et qu'il devenait tout rouge. Alors, Dizou lui a demandé d'arrêter pour lui donner une sorte de maracas. Ce spectacle était superbe.
Merci. Donc, ça veut dire que je suis un petit peu le clown du spectacle, c'est
oui.
ça
ouais. Oui.
Bah, en fait, ça s'est fait assez naturellement parce que moi, je suis un peu un clown dans la vie. Donc, voilà.
J'ai bien aimé quand Dizou a chanté avec Lisa et Armel, car ils avaient une belle voix quand ils chantaient ensemble.
Merci beaucoup, c'est gentil.
J'ai bien aimé ce spectacle, car les chansons n'étaient pas de notre langue.
Alors justement, juste pour vous dire que nous, du coup, on a appris les chansons grâce à Dizou, et à l'oreille, quoi. C'est-à-dire qu'on ne parle pas, évidemment, le Xhosa, et on ne parle pas sa langue, mais on peut quand même chanter les chansons.
J'ai bien aimé quand Dizou parlait en Xhosa. Il faisait... avec la langue. Et puis ça m'a plu à moi aussi quand Dizou, Lisa et Armel chantaient tous les trois ensemble parce qu'ils avaient une belle voix.
Yes, thank you. You know, that's my language and it's nice that all of us, you know, here, you in France also could hear my language as much as I always listen to French all the time. Merci.
Il est content de pouvoir faire ce spectacle et de chanter des... et de pouvoir chanter en Xhosa ici et que vous puissiez écouter sa langue comme lui il a pu écouter la nôtre.
J'ai bien aimé ce spectacle parce qu'il y avait beaucoup d'instruments différents qu'on n'a pas l'habitude de voir ici en Europe. Et j'ai adoré quand Lisa chantait parce qu'elle a une très belle voix.
Merci.
J'ai bien aimé ce spectacle car il y avait du rythme et ils jouaient super bien ensemble.
Merci.
Comment avez-vous ressenti toutes ces critiques?
Hey, you know, I'm so surprised about your questions and the critics that you are putting on us. It's so beautiful. It's like we are in a professional interviewed by... old people who've been doing interviews for so long. You are beautiful, let me tell you.
Il est vraiment très touché et très content d'avoir entendu toutes vos questions, toutes vos critiques. Et il a l'impression que cette interview a été menée par des très vieux professionnels qui feraient ça depuis des années. Voilà, et il vous trouve magnifique. Il vous trouve beautiful.
Merci.
Voilà.
Je vous remercie, Lisa, Dizou, Armel, et Ken, d'être venu pour participer à notre émission.
Merci beaucoup.
Merci.
Bravo.
Au revoir. C'était les petits correspondants du théâtre. Les petits correspondant du théâtre. Les petits correspondants du théâtre.
Et les garçons, on peut jouer avec vous au foot?
Non, non, c'est pas pour les filles le foot.
Allez jouer à la marelle.
Il n'y a aucune différence entre les filles et les garçons, alors vous nous laissez jouer au foot.
Les filles, ça n'a pas d'easy, ça ne joue pas au foot.
Oh, mais c'est qui?
Wow. Wow.
Je suis le diablon.
Et moi, la diablonne.
Nous sommes là pour établir certaines vérités. Les garçons et les filles ne sont pas différents.
N'importe quoi.
Les garçons peuvent porter du rose, les filles portent des pantalons.
Les garçons, s'ils veulent, peuvent porter des robes et les filles peuvent avoir les cheveux courts.
Peut-être que c'est vrai.
Bien sûr que c'est vrai.
Mais d'où venez-vous? Zizi et Zézette, nous sommes des personnages de la pièce de théâtre des orphelines de Mario Aubert. Venez avec nous, suivez-nous dans le monde des filles disparues.
Et il est où ce monde? Au théâtre Dunois, dans le 13e arrondissement de Paris. Ne perdons pas de temps. Nous allons vous présenter Violaine, Monsieur, Sonia et les autres.
Ils vous raconteront leur histoire dans un monde où les petites filles sont tuées parce qu'elles ne sont pas des garçons.
Oh, c'est terrible! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être pourriez-vous en parler avec toutes les personnes qui nous ont créés.
Venez, bonjour. Nous vous présentons Joanie Baird, le metteur en scène.
Bonjour, merci pour cette petite introduction, c'est joli.
Pourquoi avez-vous choisi ce thème de la différence fille-garçon ?
Alors, le thème de la différence fille-garçon, c'est parti surtout de la thématique de la disparition des filles dans certains pays, notamment l'Inde, la Chine, le Pakistan, où à la naissance, certaines petites filles ne sont pas désirées. Et donc, on a vu un reportage qui a été réalisé par Manon Loiseau, qui était sur Arte, un documentaire qui était très bien fait, où en fait on voyait ça, il y avait des familles qui témoignaient, qui disaient, voilà, dans notre pays, les petites filles, des fois, elles ne sont pas désirées parce qu'on n'a pas l'argent pour s'en occuper, pour beaucoup de raisons. Voilà, on a trouvé ce sujet très fort. Et donc, on s'est dit, on va faire un spectacle là-dessus. Et plus précisément, c'est Pauline et Vincent, qui sont les deux directeurs du théâtre de Vire, qui m'ont proposé ce projet, et qui ont proposé le projet à Marion, qui est l'auteur qui a écrit la pièce. Et donc, en travaillant sur le projet, forcément, on parle de l'identité, en tout cas, de qu'est-ce que c'est être un petit garçon aujourd'hui, qu'est-ce que c'est être une petite fille aujourd'hui.
Pourquoi tous les personnages ne sont-ils pas des marionnettes ?
Ah, alors c'est une bonne question. Après, j'ai presque envie de vous la poser. C'est-à-dire, pourquoi, à votre avis, qu'est-ce que ça vous a fait, le fait qu'ils ne soient pas tous en marionnettes ? Qu'est-ce que ça apporte le fait que ce soit des marionnettes, par exemple ? Vous pouvez me dire, vous ? Qui veut a envie de parler bien dans le micro, hein ? Qu'est-ce que ça fait, par exemple, le fait que Violaine soit une petite marionnette ? Qu'est-ce que ça change ? Si c'était une comédienne, qu'est-ce que ça aurait fait ? À ton avis, qu'est-ce que ça aurait changé ?
Parce que Violaine, c'est une petite fille, et puis une petite fille pourrait pas retenir les...
Ah, tout le texte, tu veux dire ? Peut-être une petite fille ne pourrait pas retenir tout le texte. Oui, mais il y a d'autres choses aussi. Si vous vous souvenez bien, il y a des moments où Violaine, elle fait des choses bizarres quand même. Et l'utilisation de la marionnette, ça permet de faire des choses des fois pas humaines ou des choses étranges. Il y a un moment dans le texte, vous vous souvenez, on dit qu'elle se met à luire. Et puis elle se met à s'envoler comme ça. Alors on pourrait le faire avec des comédiens, évidemment. Mais la marionnette permet qu'on puisse faire ça, qu'on puisse aussi avoir une matière, le fait que ce soit une petite poupée de chiffon, qu'on puisse la jeter. Vous vous souvenez, à un moment, il y a Aurélie et Thomas qui la manipulent, ils la jettent. Et bien, par exemple, c'est pas la même chose avec une comédienne. Évidemment qu'on peut pas faire la même chose. Alors en fait, moi, quand j'ai lu le texte, je me suis dit, qu'est-ce qui me semble intéressant de faire en marionnette et qu'est-ce qui me semble intéressant de faire par les acteurs. Par exemple, les Diablons, La vivacité, la rapidité du jeu, du texte, je trouvais que c'était plus intéressant que des acteurs qui le fassent. Parce que ça va très vite, vous vous souvenez, ils frottent, ça va faire une petite étincelle, et puis ils les jettent, et puis ils en reprennent d'autres. Et je trouvais que c'était plus intéressant. Et aussi le fait que cette histoire, qui est à la fois imaginaire, elle est aussi très vraie, en tout cas très cruelle. Et le fait que ce soit des humains, et qu'on se rappelle que dans certains pays, en tout cas, il peut y avoir des gens qui peuvent être durs avec des enfants ou qui peuvent en tout cas être durs ou être violents. Et je trouve que le fait que ce soit des humains, ça rappelle aussi ça. Ça rappelle aussi que ça peut être vrai. Pas aussi, pas de manière aussi décalée que dans le spectacle, mais qu'il peut y avoir des choses vraies.
Est-ce qu'il était difficile d'être à la fois marionnettiste et acteur sur ce spectacle ?
Alors, comme les acteurs ne sont pas là, effectivement, ça serait mieux qu'eux puissent répondre. Mais comme moi, je suis aussi comédien et manipulateur sur d'autres spectacles, je vais te dire pour moi ce que j'en pense. C'est sûr que c'est très différent parce que ma manière de travailler, en fait, c'est que je ne travaille pas avec des marionnettistes. Je travaille avec des acteurs qui n'ont jamais manipulé. Donc là, pour eux, c'était un petit peu une découverte. Pas complètement, mais un petit peu. Donc effectivement, c'est un peu plus difficile parce que la marionnette, c'est très technique. Dans le sens où on doit lui faire faire des choses avec les bras, avec la tête. Et puis Aurélie, Anthony, qui manipule notamment Violaine, ils doivent être coordonnés. C'est-à-dire qu'ils doivent être ensemble pour qu'on ait l'impression qu'elle vit, qu'elle marche, qu'elle prend des choses, qu'elle s'assoit. Il faut que ça soit très précis. Donc c'est très technique. Alors quand on est comédien, on peut aussi faire des choses très techniques. Mais là, la marionnette, c'est pas soi. Évidemment, c'est une autre personne qui est devant soi, à qui il faut donner sa voix, son énergie, ses intentions. Et quelquefois, ce qu'on a envie de faire, par exemple, on a envie, je ne sais pas, qu'elle soit furieuse, eh bien, on essaye de trouver comment le faire avec la marionnette. Et des fois, ce n'est pas exactement ce que nous, on ferait dans la vie. Il faut trouver presque une traduction, une manière de le faire.
Pourquoi avoir fait le choix d'avoir mis la scène tout autour du public?
Alors pareil, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous a fait? Vas-y, parle, vas-y, dans
c'est
le micro.
C'est la première fois que je vois ça.
Ouais, d'accord.
Ça change un peu des autres spectacles.
Et qu'est-ce que c'est les autres spectacles en fait? C'est quoi d'habitude pour vous?
Ils sont toujours devant nous.
Ouais, ils sont devant nous, ouais, d'accord, vas-y.
Jamais sur les côtés.
Ouais.
Mais ça peut... Ouais. Est-ce que ça peut plus bouger?
Alors, effectivement, comme tu as dit très justement, la scène est autour de nous. Quand j'ai imaginé l'espace avec Jean-Pierre, avec l'équipe, c'est vrai que le texte en fait, de Marion, il est écrit en séquence. Il est écrit en morceaux, comme ça, en fragments, on peut dire aussi. Et en fait, je me suis dit, tiens, on va s'amuser avec ça et on va faire la même chose avec le décor. Ça va se passer un peu tout autour de nous, comme ça. Ça, c'était la première envie. Et puis la deuxième chose, c'était que je voulais que les spectateurs... enfants, adultes, puissent rentrer dans un espace, rentrer dans le monde de Violaine, ce monde un peu étrange, et puis puissent en ressortir aussi, qu'il y ait une porte d'entrée et une porte de sortie. Et donc on a imaginé avec toute l'équipe cet univers comme ça qui est fait de la lumière, qui est fait de la transparence, qui est à la fois des fois, je crois, beau, et puis des fois un peu bizarre, un peu étrange, un peu sombre. Et pour moi, c'était l'univers de Violaine. Ça s'est matérialisé comme ça, on va dire.
Pourquoi le reporter cherche les filles disparues?
Ah, à ton avis, t'as une idée ou pas? Pas du tout? Est-ce que quelqu'un a une idée?
Moi.
Vas-y.
C'est pour mener une enquête?
Ouais, et pourquoi il mène cette enquête? Je crois que c'est ça ta question, non? On continue peut-être là-dessus. Pourquoi il mène une enquête? Vas-y.
Pour retrouver les filles disparues?
Oui, c'est vrai. Mais je crois que tout simplement, cette histoire, ça l'intrigue. Ça l'inquiète. En fait, je crois que cet enquêteur, c'est un peu vous en tant que spectateur qui disait, mais ce que vous posez comme question, ah bon, mais pourquoi ces petites filles disparaissent? En fait, il se place un peu, il est avec vous, il est dans votre position.
Place aux critiques des petits correspondants du théâtre.
J'ai adoré le spectacle parce que c'était vivant. Surtout la scène où le diablon et la diablonne ont frotté les poupées pour nous expliquer comment on faisait les bébés.
Je n'ai pas aimé le décor car il était sombre et triste.
Moi, j'ai aimé le début du spectacle car ça faisait peur.
J'ai aimé le monde des petits gars et les guirlandes parce que c'était beau et lumineux.
Je n'ai pas aimé le personnage de Violaine car elle était cruelle et méchante.
J'ai bien aimé le spectacle parce que c'était vivant et qu'il y avait des choses à regarder un peu partout.
Moi, j'ai été gênée par le fait que ça parle de Zizi et de Zézette parce qu'on n'en parle pas souvent.
Moi, au contraire, ça m'a fait rire, surtout quand le diablon et la diablonne parlaient de l'armée de Zizi et de la Zézette.
J'ai aimé les lumières du spectacle.
Je n'ai pas aimé la fin car c'était triste parce que Violaine est morte.
J'ai aimé que la scène soit tout autour du public parce que ça change de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant.
Je n'ai pas aimé les poupées car ils n'avaient pas de pieds, pas de mains et pas de visage. Ça faisait peur. Joanie, qu'est-ce que vous en pensez de nos critiques?
Eh bien, c'est super les critiques, c'est vraiment bien. On a le droit d'aimer des choses dans un spectacle et de ne pas aimer des choses. Et ça, c'est vraiment bien. Et quand vous allez voir un spectacle, il faut toujours vous poser la question de qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas et puis surtout pourquoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous fait? Voilà, tu disais tout à l'heure, les petites filles, l'histoire des Zézettes et des Zizi, moi j'aime pas quand on parle de ça. Mais pourquoi t'aimes pas, par exemple, qu'on parle de ça? Tu sais pourquoi?
C'est gênant.
C'est gênant? Et toi, tu disais que ça t'a fait rire, par exemple. Et pourquoi ça t'a fait rire?
Parce que c'est trop drôle.
D'accord. Mais quand on fait un spectacle, nous, on est là pour ça. C'est-à-dire qu'on le travaille, on passe beaucoup de temps. Par exemple, quelqu'un a dit « j'ai bien aimé les lumières ». Par exemple, ça, c'est le travail d'un technicien, voilà, qui s'appelle Laurent, qui a travaillé sur les lumières. Voilà. Et puis, petit à petit, on essaye de le présenter au public. Et puis, effectivement, les gens nous font des retours. On aime, on n'aime pas. On aime bien la mise en scène, on n'aime pas la mise en scène. On aime bien le texte, on n'aime pas le texte. Voilà, ça fait partie de notre travail. Alors, des fois, on entend certaines choses. On peut dire, ah oui, peut-être que. Et puis, en même temps, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne cherche pas à plaire à tout le monde. Nous, on veut faire notre spectacle et puis que ça provoque des choses chez les spectateurs, quel que soit l'âge, quel que soit qui on est. Et puis c'est bien après que vous puissiez vous dire alors ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, puis pourquoi? Voilà, c'est surtout pourquoi.
C'était les petits correspondants du théâtre
de l'école Jacques Solomon
de la classe des CM1B.
Au revoir.
Merci à tous.
Les petits correspondants du théâtre. les petits correspondants du théâtre.
Bonjour, nous sommes les CM1C de l'école Jacques Lemont.
Les petits correspondants du théâtre Antoine Vitesse sont de retour.
And we want to start the music.
Je chante soir et matin.
Ben Alexia et Dibril, vous faites quoi là?
Ça se voit pas?
On chante.
Ben justement, moi j'ai vu un spectacle où il y avait plein de chansons. Ça s'appelle Clap.
Moi aussi je l'ai vu au théâtre Antoine Vitesse à Ivry-sur-Seine. C'est Enzo Enzo qui chante.
Oui, elle reprend des chansons d'anciennes comédies musicales comme Peau d'âne, Les Demoiselles de Rochefort ou encore Mary Poppins. Elle chante aussi de vieilles chansons.
Et Amine, elle fait ça toute seule?
Non, elle est aidée par Angelo Giorzolo qui joue du piano et par Lucien Gérard qui joue de la guitare. Et Ryan, c'est qui le metteur en scène?
Ben, c'est Neri.
Tiens, c'est un drôle de nom ça, Neri.
Et est-ce que c'est un spectacle pour tout le monde?
Oui, on peut y aller de 6 à 106 ans.
Djibril et Alexia, si vous voulez chanter, il fallait voir Clap parce que vu comment vous chantez, hein.
Bonjour à tous nos auditeurs et à vous Enzo Enzo.
Bonjour.
Comment avez-vous choisi les chansons et les comédies musicales dont vous chantez des extraits dans le spectacle?
J'ai choisi les extraits en me rappelant de films que j'avais aimés ou en me rappelant de films que mes enfants avaient aimés. Et j'avais envie que ce soit des mélodies faciles à retenir et qui me faisaient plaisir, qui me faisaient soit un souvenir, soit que j'avais envie de partager avec des enfants d'aujourd'hui pour pas qu'ils les ignorent. Parce que parfois, il y a des films qui ne sont pas très connus, qui passent pas souvent, qui passent jamais au cinéma ou rarement à la télévision.
Nous étions les premiers spectateurs. Avez-vous eu le trac en entrant en scène?
Et ben, curieusement, je me suis rendu compte que pour un spectacle destiné au jeune public, j'avais pas tellement peur. Je trouvais que c'était... je me sentais moins intimidée par les enfants que par les adultes, parce que je pense que les enfants ne jugent pas, ou je me sens pas possiblement jugée par des enfants, alors que par des adultes, oui.
Pourquoi avoir choisi un décor de cuisine pour le spectacle?
Alors, c'est une idée de Neri. Lui, le metteur en scène, il est là pour créer un espace. Donc, on discute sur le choix des chansons, je lui explique ce que je veux faire, comment je me sens, ce que j'ai envie d'obtenir dans cette expérience, et avec le public, et avec moi-même, et aussi avec les musiciens. Et puis lui, il essaye de trouver un lien entre les chansons pour rendre le temps sympathique, pour faire du spectacle, pour faire que les gens ne s'ennuient pas, et au-delà des mots et des situations à vivre. Donc on a tous les deux décidé que pour amener les personnages des chansons, c'est-à-dire de temps en temps je suis la maîtresse, de temps en temps je suis la maman, de temps en temps je suis un petit enfant... On a pensé que dans une pièce à vivre, justement, une cuisine, c'est un endroit où on parle beaucoup, où on fait parfois un peu l'imbécile. Je ne sais pas si vos mamans, elles chantent en faisant la cuisine ou vos papas. Mais en tout cas, moi, dans ma famille, c'était comme ça. Donc, c'est une pièce où il se passe beaucoup de choses et où on est un peu... Il y a un climat intime qui me plaisait beaucoup et on a décidé de faire ça. Puis en plus, ça nous permettait aussi de faire cuire le gâteau de peau d'âne et on était beaucoup partis sur cette idée dans le spectacle.
Pourquoi y a-t-il une marionnette qui descend au tout début du spectacle?
Et c'était une manière de me faire entrer en scène, en fait, et le côté un petit peu magique. Tu as remarqué que la marionnette qui descend du ciel, elle est habillée en jaune. Et quand j'arrive sur scène, dès qu'elle tombe dans la cheminée, j'arrive sur scène habillée pareil. Donc c'était une manière de dire que c'était comme si j'étais une sorte de Mary Poppins qui tombait du ciel dans la cuisine et qu'il allait se passer des choses un petit peu spéciales pendant le spectacle. Qu'il allait y avoir des transformations et des disparitions.
Nous avons été surpris par la musique de Zumba. Pouvez-vous nous expliquer d'où vient cette musique?
Zumba, c'est une très vieille chanson, en fait. C'est une chanson de 1951 et elle faisait partie d'une revue pour amuser les adultes à une certaine époque. Et c'était la mode de faire des revues avec un moment un peu exotique comme ça qui parlait des îles. Et j'aimerais que vous connaissiez la version originale de cette chanson parce que la dame chantait « Dans la forêt, on entend le tam-tam de partout » en roulant les airs comme ça avec une petite voix très haut perchée. Et quand j'ai fait l'album « Les chansons d'une maman »,
J'avais rencontré cette chanson et je la trouvais très amusante et je m'étais dit je la mettrais de côté le jour où je ferais un disque pour les enfants. Et sur scène, ça nous permettait de faire un tableau très imagé où on crée une ambiance de beau, d'espèce d'île comme ça, exotique, où moi d'un seul coup je me transforme, j'ai un tablier en peau de zèbre, j'ai un collier en fourchette, enfin bon, on a fait un tableau avec des percussions, du tam-tam. Et voilà, c'était pour ça donne l'occasion ce genre de thème de donner du relief à un spectacle. Ça t'a plu la oui. chanson des Zumba?
Oui. Pour finir, est-ce que Enzo Enzo c'est votre vrai nom?
Bien sûr que c'est mon vrai nom. Mon papa m'a appelé Enzo et ma maman m'a appelé Enzo. Non, pas du tout. Je m'appelle Corinne Ternovtsev. Je suis d'origine slave. Mes grands-parents étaient polonais et ukrainiens, les parents de mon père. Mon père est né en France, ma mère est née à Paris et moi je suis née à Paris.
Eh bien nous voilà, nous sommes les critiques.
Nous allons vous dire ce qu'on a aimé et pas aimé dans votre spectacle Enzo Enzo.
J'ai bien aimé le spectacle parce que les musiques étaient belles. J'ai adoré la chanson sur les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do parce qu'elle était rigolote et créative. Et puis j'ai trouvé les décors très beaux.
J'ai bien aimé la chanson Zumba parce que j'aime les percussions. Une chanson douce m'a aussi beaucoup plu car les paroles et la musique étaient très belles.
Je n'ai pas aimé quand l'ombre a été projetée sur le drap et qu'elle faisait la même chose que vous. Par contre, j'ai bien aimé la chanson Zumba et l'image qui a été projetée sur le drap à ce moment-là, ça m'a fait penser à la jungle.
C'est vrai. Excuse-moi, mais quand l'image était projetée sur le drap, c'était pour la chanson des jumelles. Tu n'aimais pas la chanson ou qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans la projection?
C'était qu'elle faisait pareil que vous.
Et ça t'embêtait qu'elle faisait pareil que moi? Parce que tu sais, tu veux que je te dise, en fait, c'était moi qui le faisais. Et comme dans la chanson des jumelles, ce sont deux sœurs qui se parlent et qui sont jumelles, c'était, nous a paru plus intéressant que ce soit justement deux personnes qui se répondent. Et comme c'est censé être ma jumelle, Neri avait imaginé que ça allait que ce soit moi, en ombre. Par contre, elle, parfois, elle chante et moi, parfois, je lui réponds. C'est vrai que ça donne un petit côté rigolo parce qu'au début, nos deux ombres... je me détache de l'ombre, comme dans Peter Pan. Et si tu veux une anecdote, l'autre jour, au spectacle, il y avait des gens plus petits que vous, des plus jeunes personnes. Et il y a un petit enfant qui a vu l'ombre. Et quand il a vu l'ombre noire, qui était un plus petite que moi, il a dit « Oh, c'est Kirikou !» Et ça m'a fait beaucoup rigoler.
Moi, j'ai surtout aimé quand vous avez chanté Zumba, Doremi et Good Morning, parce que le son des instruments me plaisait sur ces chansons. Mais je n'ai pas aimé une chanson douce, je l'ai trouvée ennuyeuse. Je pense que les enfants ont besoin d'ambiance, sinon ils s'endorment dans la salle.
Ah bon ? Est-ce que ta maman ou ton papa, est-ce que tu connaissais la chanson douce ? Est-ce qu'ils te l'ont déjà chantée, ou ta grand-mère, ou ton grand-père ?
Non.
Est-ce que tu te rappelles comment tu connaissais la chanson douce ? Tu l'avais entendue à la radio, chantée par Henri Salvador, ou dans ta famille ?
Je l'ai entendue.
Oui, comment est-ce que tu l'avais déjà entendue, cette chanson?
Eh ben, on me l'a chantée.
D'accord. Bon, ça t'ennuie un peu les chansons douces, en l'occurrence. Oui. T'aimes l'action. Bon, la prochaine fois, je ferai un spectacle pour toi où je serai habillée en ninja.
Moi, deux spectacles m'a plu. Ça nous permet d'entendre des vieilles chansons comme une chanson douce. J'ai aimé le pianiste. Il était drôle.
Ça, c'est vrai qu'il est drôle, Angelo.
La chanson Zumba ne m'a pas plu. Je l'ai trouvée ennuyeuse parce que les paroles ne m'ont pas plu.
D'accord. On peut dire qu'effectivement, Zumba, c'est pas une chanson à texte. Ça, c'est certain. C'était plutôt l'occasion de créer une atmosphère. Mais je comprends que tu aies pu ne pas t'y intéresser au niveau du texte.
Moi, au contraire, j'ai aimé la chanson Zumba car j'aime le tam-tam. Mais j'ai trouvé dommage qu'il n'ait pas eu de danseuses en plus dans le spectacle.
Oh oui, comme tu as raison. Moi aussi, j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup de danseuses. Et je vais te dire, j'aurais aussi aimé qu'il y ait beaucoup de musiciens. Parce que les comédies musicales, normalement, on n'est pas trois pour en faire une. Mais comme on est dans un contexte de passation, j'avais envie de faire connaître ces chansons. Pour pouvoir être abordable et que tout le monde puisse y aller à Ivry, au lieu de faire un spectacle comme les spectacles qui sont joués au Palais des Congrès avec des chorégraphies de Kamel Wally et beaucoup, beaucoup de danseurs, de musiciens et de chanteurs, on a fait une évocation des comédies musicales avec les moyens du bord, et ça oblige, et c'est ça qui m'a paru aussi intéressant, à avoir beaucoup d'idées pour évoquer les choses en faisant, en amusant et en les faisant connaître. Le but de ce spectacle, c'est aussi de donner envie aux gens d'aller voir les films dont sont extraites les chansons.
C'était les petits correspondants du théâtre. À bientôt sur les ondes de Radio Cartable pour vous présenter un nouveau spectacle.
Au revoir. Les petits correspondants du théâtre. Les petits correspondants du théâtre.
Non, mais tu vois ce que je vois.
Mais qu'est-ce qu'elles font?
On n'en aura jamais dit que le hip-hop, c'est une danse de mecs.
Et les filles, arrêtez de vous ridiculiser et laissez-nous faire.
Oui, c'est vrai, c'est une affaire de garçons, le hip-hop.
Mais n'importe quoi, depuis quand les filles ne peuvent pas danser le hip-hop?
Danser le hip-hop? Et puis quoi encore?
Bah allez dire ça à Émilie Schramm, puisque vous êtes si malin.
C'est qui cette fille?
Une danseuse de hip-hop, elle fait partie d'une compagnie de danse qui s'appelle Black Blumber.
Elle danse dans un spectacle de hip-hop où il n'y a que des danseuses.
Que des danseuses dans un spectacle de hip-hop?
Oui, et les chorégraphies sont de Christine Coudin.
Comme quoi c'est une affaire de femmes ce spectacle.
Et comment il s'appelle ce spectacle?
My Tati Freeze. Pendant une petite heure, une dizaine de danseuses parlent de la femme sur scène.
Les gars, ce serait peut-être bien qu'on aille le voir ce spectacle, non?
Oui, mais moi, un spectacle qui ne parle que des femmes et seulement avec des femmes, ça ne m'intéresse pas.
Il a raison, c'est pas un spectacle pour les gars.
Détrompez-vous, les garçons. Venez avec nous, on a justement rendez-vous avec Émilie Schramm et Jean Djemad. On va pouvoir en discuter avec eux.
Enfin, un homme dans l'histoire! C'est qui ce Jean Djemad?
L'un des cofondateurs de la troupe Black Blumber. Tiens, les voilà justement.
Bonjour.
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 Alors ce spectacle, c'est un spectacle uniquement pour les filles?
C'est pas un spectacle uniquement pour les filles. Bon, c'est vrai que dans la pièce, on est 8 filles, donc il y a que des filles. Mais je pense que c'est utile pour les hommes de venir voir ce spectacle et pour pouvoir venir découvrir un peu le monde féminin. Donc je pense que c'est un spectacle pour tout le monde, autant les hommes que les femmes, autant les enfants que les adultes.
Non mais c'est très bien, moi je veux simplement indiquer pour les filles, le spectacle il est pour tout le monde, il est fait par des filles, et il raconte une histoire, effectivement, de filles, des filles de la compagnie d'aujourd'hui, qui ont entre 20 et disons 28 ans. Voilà, c'est cette tranche-là, parce que des filles, ben, y en a de tout âge, hein.
Pourquoi ce spectacle ne parle que des femmes?
En fait, c'est un choix de la compagnie qui a commencé pas seulement avec ce spectacle, mais qui est la troisième étape d'un travail qui est fait sur la danse des filles. Parce que, figure-toi qu'on a remarqué que les filles, c'était pas comme les garçons. Et ça, c'est évident aussi en danse. Mais quand je dis c'est pas comme les garçons, c'est parce qu'il y a des tas de rapports au monde, une sensibilité, une manière de voir les choses, de les ressentir, qui est différente. Et ça, aujourd'hui, il y a encore énormément d'hommes et de garçons qui ne le savent pas.
C'était la première fois que vous faisiez ce spectacle. Qu'avez-vous ressenti?
Eh bien, déjà, je suis très heureuse de faire ce spectacle, parce que pour moi, ça parle bien sûr de la femme, comme on l'a dit, et donc je suis une femme. Et d'être avec mes copines, de partager des choses très fortes et de les faire partager au public, bien, c'est toujours quelque chose de beau et on est vraiment heureux de le faire. Donc pour le premier spectacle, c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce que je ressens pour tous les spectacles que je fais. Donc voilà, on a quelque chose à dire, quelque chose de fort, je pense. Donc je suis très heureuse à chaque fois que je fais ce spectacle.
J'ajouterais volontiers que pour la première, c'était aussi un soulagement. Parce qu'un spectacle, c'est plein de choses qu'on prépare dans tous les coins. Et puis qu'il faut rassembler sur une heure. Et c'est ce rassemblement, la première. Donc c'est comme un bébé, on sait qu'il est là. Mais tant qu'il est dans le ventre, on le devine. Et puis c'est un peu comme s'il était sorti du ventre de la maman. C'est-à-dire qu'on le voit, apparaître, on en fait les contours. On regarde la tête qu'il a, la couleur de ses yeux. Donc il y a un côté comme ça, voilà, naissance.
Que signifie le titre « My Tati Freeze »
Alors, My Tati Freeze, c'est comme tous les titres, on essaye d'y mettre un peu une expression la plus résumée, si on peut dire, de ce qu'on va montrer, de ce qu'on va apporter. My Tati, c'est ma tante hein, en anglais, mais c'est aussi un clin d'œil à un grand réalisateur de cinéma qui s'appelle Jacques Tati et qui incarne une manière d'humour populaire au cinéma. Pour les gens de la danse, ce gars-là, c'est un chorégraphe. C'est-à-dire que toute la précision de ses gestes, les moindres détails de ce qu'on peut voir dans ses films, il a fait un film qui s'appelle Mon Oncle, notamment, et puis d'autres que je vous invite à voir si vous ne les avez pas vus. Alors, donc, une référence à Tati et Freeze. Freeze, c'est une figure de break, donc cette danse qui se danse au sol, comme vous l'avez vu, et qui est une sorte de figure gelée. To freeze, c'est gelé en anglais. Et donc, c'est une forme qui est bloquée, gelée au sol. Voilà. Donc, ça veut dire que ma tante fait des figures bloquées, gelées au sol. Bon, c'est pas très poétique de le dire comme ça, mais c'est une manière de dire comment cette génération de danseuses vit et s'amuse et pratique cette sorte de danse. Voilà.
Est-ce que la chorégraphie était difficile à mémoriser et à réaliser ?
Non. Non. Pas du tout, ça allait. C'est en fait, je pense que quand on a envie de faire quelque chose et qu'on y met le cœur, ben rien n'est difficile.
Moi, j'ajouterais, voyant les choses de l'extérieur, puisque comme vous l'avez remarqué et comme vous l'avez bien dit dans votre préambule, c'est une affaire de filles. Et moi, c'est le premier spectacle que je produis, j'allais dire, à distance. Il n'était pas question de rentrer dans cet espace de femmes. D'ailleurs, je ne savais pas y trouver ma place en tant que producteur. Donc, j'étais en retrait. J'ai suivi ce spectacle comme tous les autres. Mais à la différence des autres, j'étais en retrait parce que je suis un garçon, justement. Hein. C'était vraiment une histoire de filles. Il y avait une intimité, quelque chose de propre à construire entre les filles. Il n'était pas question qu'il y ait un garçon qui mette ses pieds là-dedans. Mais du coup, ce recul est intéressant aussi pour pouvoir parler de ce travail, parce que je pense que dans ce travail, c'est une étape dans l'histoire des danseuses de cette compagnie. Elles ont été chercher des choses au fond d'elles-mêmes, elles ont réfléchi sur un certain nombre d'éléments de leur condition d'être femme, d'être jeune femme, et elles ont repoussé un certain nombre de limites. De ce point de vue-là, je pense qu'elles ont dû fournir des efforts énormes, et que pour certaines, pas pour toutes, ça dépend du niveau qu'elles ont de conscience de leur propre situation, mais pour certaines, ça a dû être plus dur que pour d'autres. Et je pense que dans les premières, la vraie difficulté, c'est de bien interpréter le rôle et en même temps de se souvenir de la mémoire. Mais là, Émilie est extrêmement modeste parce que c'est vraiment une très très grande danseuse et elle dit que c'est facile. En vérité, elle fait tout le travail qu'il faut et je pense qu'aujourd'hui, avec le niveau qu'elle a, ça doit être facile pour elle.
J'ai pas aimé.
Oh là là, j'entends les critiques qui arrivent.
J'ai aimé parce que...
Puisque vous avez envie de parler, venez le faire dans les micros.
Vous nous trouvez bruyants, mais c'est parce qu'on a plein de choses à dire.
On veut dire ce qu'on a ressenti, nous.
Allez, c'est parti.
J'ai bien aimé quand les danseuses se sont déguisées en garçons, car j'ai vraiment eu l'impression qu'elles étaient de vrais hommes.
Je n'ai pas aimé parce que je n'aime pas les spectacles de danse. Je préfère les spectacles parlés.
J'ai bien aimé ce spectacle car il était rempli de sentiments comme la tristesse, la colère, la joie.
Je n'ai pas aimé parce que c'était un spectacle uniquement féminin.
Je vais te dire, ça se soigne. Mais c'est normal, il y a des âges où les garçons s'intéressent qu'aux histoires de garçons. Et puis, quelques mois après, il leur arrive des tas de choses et puis ils se rendent compte que la vie, elle est faite avec aussi les femmes, des jeunes femmes, des vieilles femmes. Et puis, ils voient leur mère, ils voient leur grand-mère, ils voient leur sœur. Ces moments arrivent et l'intérêt se déclenche à ce moment-là. C'est, y a rien d'anormal à ce que... J'entendais, moi d'ailleurs, j'ai eu à côté de moi au spectacle un garçon qui arrêtait pas de dire « Mais quand est-ce qu'ils arrivent les garçons ? Il n'y a pas de garçons. » Voilà, bon. Il vous laisse voir lui-même. Bon, ben, moi je crois que ce que tu as vu, de toute façon, ça va rester dans ton esprit parce que ça s'imprime comme les rêves, comme je disais tout à l'heure. Et puis à un moment utile, ça te reviendra et ça va te donner quelques billes utiles sur les filles, crois-moi.
Je n'ai pas aimé certains sons car ils étaient trop forts et parfois effrayants.
Je comprends.
Alors, vous êtes venu à la première et à la première, il y a encore plein de petites choses qui n'étaient pas réglées. Mais je dirais quand même que d'un côté, il y a des sons parfois qui nous ont échappé. Et ça, c'est pour nous, le jour de la première, on les a réglés aussitôt après. Mais il y a des sons qui sont des sons d'électroacoustique, qui sont des sons fabriqués, composés, qui sont les choses qu'on n'entend pas immédiatement quand on met son poste de radio habituel, ou quand on met la télévision, comme les trois quarts du temps, tout le monde s'abreuve de télévision régulièrement. Et là, ça vaut le coup d'entendre et de réentendre, parce que souvent, c'est ce genre de musique qu'on n'aime pas du premier coup, mais après, qu'on aime pour longtemps.
Moi, j'ai aimé la musique, je l'ai trouvée pleine de vie et j'avais envie de bouger sur mon siège.
Je n'ai pas compris ce spectacle, c'est en parlant en classe avec les autres que je l'ai réalisé.
Vous avez beaucoup de chance de pouvoir venir voir des spectacles entre copains et copines, parce que quand on va voir un spectacle, souvent on se fait chacun ses idées. Et donc c'est bien que vous puissiez tous partager ce que vous avez pensé du spectacle, ce que vous n'avez pas compris, ce que vous avez compris, et de créer un échange avec vos copains et copines, et ça c'est super.
J'ai aimé la première partie car c'était drôle, les situations étaient amusantes.
J'ai trouvé le spectacle trop long.
Moi j'ai aimé le passage où les filles faisaient un battle, c'était impressionnant.
J'espère que vous avez tous remarqué le niveau technique des filles en break. Si vous suivez la breakdance, hein, donc vous avez vu, c'est de la breakdance essentiellement. Il y a deux danseuses debout, mais le niveau technique, vous avez remarqué, ce niveau technique, c'est exactement celui des garçons aujourd'hui. Et je pense que dans ce spectacle, il y avait une volonté aussi de montrer que les filles, de ce point de vue-là, elles n'ont absolument rien de moins que les garçons. Voilà.
C'était les petits correspondants de la classe CM1P de l'école Jacques Solomon.
Au revoir et merci de nous avoir écoutés.
Au revoir et merci de nous avoir entendus.
Les petits correspondants du théâtre. Les petits.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux qui vous réserve son cocktail musical de sa préparation. C'est une spécialité maison de Bibliomanie. Et aujourd'hui, je vais vous parler, j'ai la grande joie de recevoir Fabrice Collin pour un roman que pour ma part j'ai beaucoup aimé. C'est un peu mon coup de cœur de la rentrée littéraire 2026. C'est 7 jours, ça vient de paraître aux éditions Calman Lévy. Et ça paraît au même moment qu'un livre, la sortie de votre précédent roman, Fabrice Collin. Tu réclamais le soir, précédent roman qui vient de paraître en poche, toujours aux éditions Calman Lévy. Et puis en fin d'émission, j'évoquerai le livre de Nathalie Solens, dans une petite chronique en fin d'émission. Il s'appelle Quatrième étage sans ascenseur, hôte d'une fille à ses parents, aux éditions Petra. Fabrice Collin, bonjour.
Bonjour.
Donc c'est vrai, vous êtes un auteur prolifique. Moi c'est le voilà, quarantaine de livres à peu près.
Ouais, plus que ça en fait, mais comme il y a des livres jeunesse dans le tas, c'est difficile de faire un décompte précis quoi.
Ben oui. Eh ben oui, c'est justement la thématique de votre livre, le décompte. 7 jours, j'allais dire 7 ans, 7 jours, 7 ans de réflexion, 7 jours, c'est un peu la thématique du temps, votre roman, Fabrice
ouais,
Collin.
Absolument. C'est joli, 7 ans de réflexion, je n'avais pas pensé. Mais
7 ans de réflexion. Ouais. Alors, vous avez été 4 fois lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire, dans 4 catégories différentes, je suppose.
Enfin, oui, absolument. Ouais.
La jeunesse.
Roman, nouvelle, jeunesse et bande dessinée.
Et puis, vous êtes fait connaître par des textes sur la fantasy, la science-fiction, l'imaginaire. Beaucoup de livres en jeunesse, hein, beaucoup de livres en jeunesse, avant de vous tourner vers le polar et les bandes dessinées et la littérature générale. Est-ce qu'on peut dire, Fabrice Collin, que 7 jours... Alors moi, je vous ai lu pour la première fois avec 7 jours. Hein, donc je vais rattraper mon retard. Est-ce qu'on peut dire néanmoins que ce roman, c'est un peu la synthèse de tous les...
les registres littéraires que vous connaissez.
Oui, d'une certaine façon, parce que bon, c'est un livre de littérature générale, mais la littérature générale, qu'est-ce que c'est ? On est bien en peine de le définir aujourd'hui. C'est des questions de libraires et d'éditeurs, mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de textes de science-fiction, de fantastique, enfin en tout cas qui ressortissent à ces catégories dans une certaine mesure et qui sont publiés en littérature générale parce que souvent les auteurs ou autrices ont été publiés en littérature générale avant. Je pense à des bouquins comme même ceux de Houellebecq ou ceux de Céline Minard, ou enfin il y a un certain nombre d'auteurs comme ça en France dont les livres sont classés en littérature générale alors qu'ils pourraient être ailleurs. Donc bon, c'est pas très important où c'est. En revanche, bon, c'est un livre effectivement qui est, je dirais, un peu plus grand public que ce que je peux avoir l'habitude de faire habituellement, au sens où il y a rien de particulièrement compliqué à comprendre. C'est pas un livre pour initier, c'est pas un livre qui nécessite d'avoir des codes. C'est une histoire, c'est une histoire de famille, mais au sein de cette histoire, il y a un élément que on peut qualifier de surnaturel ou en tout cas inexplicable. Et ça, c'est un petit peu ma marque de fabrique. Je disais à une intervieweuse il y a quelque temps, de façon un peu maladroite, mais je disais, il y a toujours un fantôme qui traîne dans mes livres. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas explicable avec la seule logique ou avec les cinq sens dont on dispose, quoi.
On peut penser aussi